Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
Manuel Valls réagit au rejet de l'accord de Bougival par le FLNKS. Le ministre des Outre-mer confirme qu'il sera sur le territoire la semaine prochaine. Le plan du gouvernement portant des réformes budgétaires, sociales et fiscales au menu des élus du Congrès. Opposé à ce texte, la Fédé manifeste boulevard Vauban. La foire de Bourail ouvre ses portes demain et pour 3 jours. Nouvelle page spéciale dans ce journal. À l'étranger, rencontre Trump-Poutine vendredi. Les pays européens absents de cette rencontre ont échangé avec le président américain qui réaffirme sa volonté de trouver un cessez-le-feu. Et puis le sport, le retour du PSG sur les pelouses européennes. Les tenants de titre de la Ligue des Champions ont remporté la Supercoupe ce matin en battant Tottenham aux tirs au but. Bonjour et bienvenue dans ce journal et notez que dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, juste après cette édition, nous ferons un point sur le travail des assurances. À ce jour, 3590 sinistres ont été recensés pour un coût estimé à 113 milliards de francs. Les dommages aux biens des professionnels représentent 49% des sinistres, mais 95% du montant total des indemnisations. Pour en parler, nous recevrons 2 représentants du COSODA, le comité des sociétés d'assurance, Frédéric Jourdain, son président, responsable d'AXA Pacifique, et Myriam Sivardi du groupe Alliance, des jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu à retrouver dès la fin de ce journal. Un choix incompréhensible, c'est la réaction de Manuel Valls à la décision du FLNKS de rejeter formellement l'accord de Bougival et de refuser de participer au comité de rédaction tout en souhaitant maintenir un dialogue bilatéral avec le gouvernement. Quelques heures après la conférence de presse du FLNKS, le ministre des Outre-mer s'exprime dans un long post sur ses réseaux sociaux, Elisabeth Noir.
Ma porte reste évidemment ouverte pour comprendre les raisons peu explicites de ce choix incompréhensible. Ce sont les mots de Manuel Valls qui a pris acte sans surprise de la motion adoptée par le FLNKS à l'issue de son congrès extraordinaire. Un ministre visiblement irrité mais qui ne cède pas. « Je ne me résigne pas », écrit-il, « ma détermination reste intacte ». Et la mission qui lui a été confiée par le président de la République et par le Premier ministre est claire, elle n'a pas changé, dit-il, « parvenir à une solution d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie ». Manuel Valls affirme que ce travail se poursuivra dans l'écoute de chacun et conscient de l'intérêt des Calédoniens, sans céder à la menace de la violence ou du blocage. En réponse aux mots du bureau politique du FLNKS, Manuel Valls ajoute qu'il ne cherche aucun passage en force. « Je ne tomberai pas », écrit-il, « dans le piège des mots qui blessent et dans la confrontation ». Comme dans ses postes précédents, le ministre des Outre-mer se livre ensuite à une pédagogie de l'accord de Bougival à destination des indépendantistes. Et il affirme « Nous mettrons en œuvre le projet de Bougival, ce pari de la confiance, qui est inédit et qui représente une nouvelle avancée pour la Nouvelle-Calédonie, avant d'interroger quelle autre alternative sinon le statu quo, la fuite en avant, l'impasse, la confrontation ». Manuel Valls se dit pouvoir compter sur la même détermination des autres partenaires, les loyalistes et le rassemblement, Calédonie Ensemble et l'éveil océanien, et évidemment les indépendantistes de l'Unipalika, qui ont tous choisi d'honorer leur signature et de défendre l'accord de Bougival. « Nous pouvons aussi compter, affirme-t-il, sur une large part de la population dans toute sa diversité qui aspire à vivre ensemble et à retrouver des perspectives socio-économiques solides. » Le ministre des Outre-mer répète également sa conviction que l'absence d'accord aurait de lourdes conséquences. « Ce n'est pas du chantage économique et social que de dire la vérité, écrit-il. Sans accord, sans stabilité politique, il n'y aura pas de repreneur pour le nickel. La pénurie de soignants perdurera et les inégalités continueront de se creuser. »
Emmanuel Valls redit sa conviction que l'accord de Bougival est une opportunité extraordinaire et historique. Il confirme aussi sa venue la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie et il annonce le dépôt d'une proposition de loi organique pour reporter les élections provinciales à juin 2026.
Cette proposition de loi organique a été déposée par 6 présidents de groupe du Sénat. Et pour Manuel Valls, cela témoigne d'une volonté transpartisane d'accompagner la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Le texte prévoit de reporter les élections provinciales à juin 2026, conformément au calendrier fixé par l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Juin 2026 au lieu de novembre 2025, comme cela avait été prévu après un premier report décidé l'an dernier, et alors que le FLNKS réclamait hier le maintien des provinciales à novembre 2025. Le ministre salue le dépôt de cette proposition de loi organique et il souhaite que le Parlement puisse en débattre dès la reprise des travaux parlementaires. D'après le site du Sénat, cette proposition devrait être examinée le 23 septembre prochain. quant à sa venue en Nouvelle-Calédonie la semaine prochaine, elle doit lui permettre de rencontrer toutes les délégations politiques et d'installer le comité de rédaction. Nous examinerons le projet de loi de réforme constitutionnelle, ajoute Manuel Valls, qui veut aller à la rencontre des Calédoniens, du Sénat coutumier, des maires, des forces économiques et sociales, ainsi que des personnels de santé. Et le ministre des Outre-mer conclut en affirmant que chacun devra assumer ses responsabilités et privilégier l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Et j'ajoute, Elisabeth, que vous reviendrez sur cette déclaration de Manuel Valls et sur l'actualité dense de ces derniers jours demain dans le club politique Radio Rythme Bleu. Un club politique qui aura lieu donc demain, vendredi 15 août, à partir de 16h45. La suite de ce journal, et nous allons prendre la direction du Congrès où les élus siègent depuis ce matin sur un ordre du jour chargé. Mais la séance Nicolas Legrand a débuté avec du retard.
Oui, une demi-heure de retard en cause. Une réunion avec les représentants de la FEDE mobilisée boulevard Vauban. Le syndicat, vous le savez, s'oppose au plan du gouvernement portant des réformes budgétaires, sociales et fiscales visant à rétablir l'équilibre des comptes sociaux et à redresser les finances publiques de la Nouvelle-Calédonie. Texte qui sera étudié aujourd'hui par les élus du Congrès. Mais avant cela, le premier projet de loi du pays porte sur la lutte contre la fraude fiscale et la modernisation du contrôle de l'impôt. Composé de 30 articles, le projet de loi du pays instaure plusieurs mesures visant, d'une part, je le disais, à améliorer les dispositifs d'échange automatique d'informations et de lutte contre la fraude fiscale, et d'autre part, à moderniser le contrôle de l'impôt. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a déclaré l'urgence sur ce projet. La Nouvelle-Calédonie qui a en effet l'obligation de se conformer aux règles fixées par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. À défaut, la Nouvelle-Calédonie pourrait être inscrite sur la liste des États et territoires non coopératifs établis par l'Union européenne, ce qui entraînerait notamment une restriction de l'usage des fonds européens. La prochaine évaluation de la Nouvelle-Calédonie par le Forum mondial aura en effet lieu du 17 au 19 septembre prochain. C'est dire s'il y a urgence. Pour mémoire, le 11e FED, le Fonds européen de développement, a permis à la Nouvelle-Calédonie de bénéficier de 3,6 milliards de francs axés sur les secteurs de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Et en 2022, l'Union européenne avait également acté le financement du schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie pour un montant global de 3,7 milliards de francs. Depuis 2018, maintenant, la Nouvelle-Calédonie adapte son code des impôts pour répondre aux différentes exigences de l'OCDE. Il s'agit donc de mesures techniques permettant de renforcer les capacités de contrôle de l'administration fiscale afin d'éviter toute fraude. Les débats, je le disais, ont évidemment été assez techniques, notamment sur les délais de mise en œuvre et puis sur des points très précis, notamment concernant les relations avec les banques. Les élus ont ensuite voté les premiers articles à l'unanimité. Le vote sur l'ensemble du texte doit intervenir dans les minutes qui viennent. Au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Legrand, RRB.
Merci Nicolas. Et donc la FEDE qui a lancé un jour de grève aujourd'hui s'est mobilisée ce matin. Le syndicat s'oppose au plan de réforme fiscale et sociale préparé par le gouvernement et adopté il y a 10 jours. Une centaine d'entre eux a manifesté boulevard Vauban avant qu'une délégation ne soit reçue par le bureau du Congrès avant le début des travaux. C'est ce que nous a dit Steve Territeaou, le secrétaire général de la FEDE.
Rien de transcendant, On a été écoutés, on espère surtout avoir été entendus. On a mis en avant tous les risques sociaux et les risques budgétaires, économiques et financiers qui nous poussent aujourd'hui à être contre ce projet. On a rappelé que dans ce projet, il y avait néanmoins quelques petites mesures pour lesquelles on était favorable. Et ce qu'on souhaitait, c'était de remettre à plat ce plan et de pouvoir le travailler ensemble de façon à ce qu'il ne soit pas considéré comme une attaque aux solidarités. S'attaquer aux allocations familiales quand on sait qu'on a tout un panel de leviers, notamment les exonérations fiscales qui peuvent pallier à ces mesures. Pour nous, c'est le point rouge, le point ne pas franchir les allocations familiales.
Rappelons que la FEDE est le seul syndicat avec force ouvrière qui n'a pas signé l'accord cadre négocié avec les organisations syndicales patronales et le gouvernement. Des membres de la FEDE ont également manifesté ce matin devant l'hôtel de la province Nord et celui de la province des Îles. Toujours au chapitre institutionnel, le conseil municipal de Nouméa réuni hier soir en séance publique avec à l'ordre du jour des subventions, des appels à projets ou encore des signatures de conventions qui ont été adoptées à l'unanimité par les élus. Écoutez le maire Sonia Lagarde.
Un conseil municipal extrêmement classique avec à la fois des subventions, des appels à projets que nous avons développés avec l'État, des signatures de conventions bien évidemment, le confortement du talus du Wentoro en face de la bodega qui menace depuis très longtemps. Une convention de partenariat avec le RSMA au Wentoro, puisque on a un sentier avec des rondins de bois qui avait déjà été fait avec les jeunes qui sont au RSMA. Et donc là, il faut le remettre un petit peu à niveau. Il est un peu dégradé avec les intempéries. la signature encore d'une convention avec ACE pour le remplacement des lanternes, des marchés à bons de commande pour l'entretien à la fois des voiries, des espaces verts de la commune, et puis les décisions modificatives du budget principal et des budgets annexes.
Et on signalera que sur ces budgets, il s'agissait d'ajustements techniques. Le prochain conseil municipal de Nouméa est prévu le 17 septembre. En bref, retour progressif à la normale chez Aircal ces derniers jours et en cette période de très forte affluence. Plusieurs vols, notamment à destination de Marie, ont dû être annulés à la suite de problèmes sur l'un des deux ATR de la compagnie domestique. Ne disposant que de deux avions, il a été difficile pour les équipes d'Aircal de recaler des vols pour acheminer les passagers en souffrance. Mais la situation revient donc progressivement à la normale puisque trois quarts des passagers concernés par les annulations de vols ont finalement pu être transportés.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la question du jour. La centrale à costée temporaire de la SLN qui alimente à 90% l'usine de Doniambo doit-elle, selon vous, devenir une centrale permanente? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier. 62% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils n'approuvent pas la décision de plusieurs pays, dont la France et l'Australie, de reconnaître l'État de Palestine. Ils sont 38% à dire qu'ils approuvent cette reconnaissance. Il est 11h42, la première pause de ce journal. Avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie, nous parlerons notamment de la foire de Bourail, mais aussi de la fête de l'Assomption demain le 15 août.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Waouh! Il nous faudra vraiment plusieurs vies pour profiter de tout Canal+.
Justement, Canal+ casse les prix de cette formule à seulement 5000 francs par mois pendant 2 ans.
Avec toutes les chaînes Canal+ incluses?
Oui! Jusqu'à plus de 150 chaînes à prix canon. À toi le meilleur du sport, le cinéma ultra récent et tes séries exclusives. Jusqu'au 30 septembre pour tout nouvel abonnement de 24 mois à Sélection+, Essentiel+, Premium+ ou Ultimate+, bénéficiez du tarif unique de 5000 francs par mois. Le mois en cours est offert. Offre soumise à conditions valable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
La ville de Nouméa organise un concours pour le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Si vous avez entre 18 et 30 ans, le permis B, un diplôme de secourisme et un casier judiciaire vierge, c'est un bon début. Récupérez votre dossier de candidature auprès de la direction des ressources humaines située à l'hôtel de ville de Nouméa ou sur le site internet de la ville www.nouméa.nc.
Ce concours se déroulera de septembre à novembre 2025 avec des épreuves sportives, écrites et orales. Retrouvez toutes les infos sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Attention, vous avez jusqu'au vendredi 22 août pour vous lancer.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La foire de Bourail ouvre ses portes demain à Ténée. Le rendez-vous est très attendu cette année après une année sans foire. La première journée, celle du vendredi, est traditionnellement consacrée aux professionnels avec les concours agricoles. Écoutez Guy Monvoisin, le président du syndicat des éleveurs bovins de Nouvelle-Calédonie.
Bourail, c'est un peu le centre un peu de la Calédonie. C'est là où c'est facile, où tout le monde se retrouve. On se retrouve d'abord avec, surtout avec la ville, hein, avec le Grand Sud, et puis on se retrouve beaucoup entre nous aussi, entre professionnels, c'est important. Je crois qu'ils ont voulu mettre plus en valeur les animaux dans des endroits où il y a beaucoup plus de monde et carrément au milieu du champ de foire. Je pense que c'est une bonne initiative, donc c'est certainement une façon de les mettre beaucoup plus en valeur. C'est ce savoir-faire qu'on étale pour le grand public et puis pour les consommateurs calédoniens, c'est de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire. Et c'est toujours des grands moments parce qu'il y a beaucoup d'élus, notamment les responsables du monde agricole qui sont là. Donc ça permet des moments d'approche où on a le temps de discuter dans un endroit convivial.
Le président de l'OSEF, Lionel Brinon, était ce matin notre invité à 7h30. Il est revenu sur les problématiques rencontrées par le monde de l'élevage et notamment la surproduction liée à la baisse de consommation.
Nous avons une chute des ventes constatée par un appauvrissement des consommateurs de Nouméa. Vous le voyez déjà sur d'autres filières, et les filières agricoles sont directement impactées. Nous, à l'OSEF, depuis le début de l'année, entre les pommes de terre et les viandes, on a perdu plus de 20% du marché. Donc derrière les conséquences, c'est un ralentissement de notre capacité à pouvoir valoriser les animaux. Le secteur le plus impacté aujourd'hui, c'est la filière porc, avec des obligations de diminuer les droits à produire des producteurs. Donc on touche directement au portefeuille des producteurs lorsque derrière les consommateurs ne sont pas au rendez-vous par rapport aux crises dans lesquels on est encore aujourd'hui pour pouvoir acheter cette production locale de qualité.
Et pour écouler la production, mardi prochain, une première expédition de viande calédonienne partira vers Tahiti. Wallis et Futuna, de son côté, est intéressé par la pomme de terre notamment. Mais pour Lionel Brinon, il est important de revoir la structure des prix en Nouvelle-Calédonie pour permettre aux consommateurs du territoire d'acheter des produits locaux.
En ce qui concerne l'OCEF, il faut savoir que nos prix sont encadrés, que nos marges sont infimes. Et moi, je considère qu'effectivement, il y a des efforts à faire. On le voit hein, souvent, les prix entre le prix producteur et le prix consommateur, il y a certains établissements qui jouent pas le jeu avec des marges excessives. Et il y a un travail à faire, on en a parlé aussi avec le gouvernement. Parce que d'un côté, on a des producteurs qui mettent 5 ans pour faire un bœuf et de l'autre côté, on a un boucher qui met 5 heures pour le vendre avec des intermédiaires. Tout le monde doit être rémunéré, mais au juste revenu pour que l'on puisse placer la production. Et effectivement, avec l'OCEF, on va faire des opérations sur de la pomme de terre d'ici la fin de l'année, sur du veau, notamment dans les cantines. Mais il faut que tous les acteurs jouent le jeu. Parce que il faut pouvoir nourrir la majorité des Calédoniens.
Le président de l'OCEF, Lionel Brinon, qui était notre invité à 7h30 ce matin, interview à retrouver en audio sur notre site internet. De nombreux Calédoniens pourront donc aller à Bouraye dès demain, puisque ce vendredi est un jour férié, début d'un long week-end. Jour férié à l'occasion de la fête de l'Assomption, une fête catholique dont le père Grossin, l'un des prêtres de la cathédrale de Nouméa, nous rappelle le sens.
C'est une fête pour les chrétiens. Tous ceux qui reconnaissent et croient qu'au terme de sa vie terrestre, la Vierge Marie n'a pas connu la corruption du tombeau, mais elle était élevée au ciel en son corps et en son âme, et qu'elle est entrée dans la gloire de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes tous destinés, destin commun de l'humanité. Ce n'est pas de terminer dans un trou ou dans une urne, hein, c'est de partager la gloire de Dieu au ciel. Et c'est la grande fête de l'ensemble des chrétiens, de ceux qui croient en ce qui a été défini comme un dogme, par le pape Pie XII en 1950, mais qui est cru par les chrétiens, hein, de toute confession, depuis très longtemps. On en trouve des traces dès le 5e siècle, mais qui, dans la partie orientale de l'Église, de langue grecque, s'appelait la Dormition de la Vierge Marie. Mais nous, on appelle ça l'Assomption Marie, qui est montée au ciel, élevée dans la gloire de Dieu, en son corps et en son âme.
Et cette fête du 15 août donne lieu à plusieurs pèlerinages en Calédonie, et notamment celui de la Conception. Les pèlerins partiront demain matin de plusieurs paroisses de Nouméa et du Grand Nouméa pour rallier l'église de la Conception. La journée se conclura par la messe de l'Assomption qui sera célébrée à 15h par l'archevêque de Nouméa, Mgr Sione Poé. L'actualité dans la région Pacifique, le Vanuatu et l'Australie viennent de jeter les bases d'un nouveau pacte stratégique. Il va unir les deux pays dans plusieurs domaines. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
L'accord initial de ce pacte stratégique, baptisé Nakamal, a été signé hier au sommet du mont Yasur de Tana, l'île dont le premier ministre du Vanuatu, Jotham Napat, est originaire, d'un montant de 500 millions de dollars australiens. Soit un peu plus de 33 355 millions de nos francs, il va s'étaler sur 10 ans et va accroître la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, dont les infrastructures, la résilience climatique et le développement économique de l'archipel. Une aide budgétaire sera également consentie par Canberra. Nous sommes une famille et notre avenir est étroitement lié, a déclaré le vice-premier ministre australien Richard Marles après avoir signé le document initial. C'est un accord gagnant-gagnant pour nos deux pays, a quant à lui estimé Jotham Napat. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h50, une nouvelle pause et dans un instant ce sera l'actualité à l'étranger en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
À toutes les Calédoniennes, la Nouméa NOPT célèbre sa 20e édition. Pour cette occasion très spéciale, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 octobre à l'Hippodrome Henri Millard pour une matinée solidaire dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Stands thématiques, marches et surprises vous attendent pour ce grand moment de partage 100% féminin. Inscrivez-vous vite sur www.inlife.nc. Plus d'infos sur la page Facebook la Nouméa NOPT. Vous êtes artisan et vous voulez vous former ? Avec le dispositif 3FA, c'est simple et rapide. Choisissez votre formation au CFA de la CMA, remplissez le formulaire en ligne et jusqu'à 60 000 francs par an peuvent être financés par la CMA.
Des compétences en plus, un métier qui avance. Tout commence au CFA de la CMA. Rendez-vous sur www.cma.nc/3FA. Le formulaire est en ligne, il suffit de quelques clics. 3FA, le dispositif qui donne de l'élan aux artisans.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'InfoMag avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Jean-François Baudin.
Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontreront vendredi en Alaska. Un sommet, le premier en direct entre les deux dirigeants depuis 2021, qui portera très largement sur la question ukrainienne. Pour préparer cette rencontre, Donald Trump a échangé à distance avec les dirigeants européens et le président ukrainien Zelensky. Emmanuel Macron y a participé depuis le fort de Brégançon. Les pays de l'Union européenne font le forcing sur la question territoriale alors que Donald Trump a parlé à plusieurs reprises d'échanges de territoires entre Russes et Ukrainiens. Sur ce point, le président américain a été rassurant, au moins sur la question des territoires ukrainiens occupés par la Russie, a expliqué Emmanuel Macron.
Les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump. C'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien.
Mais les pays européens souhaitent aussi que le président ukrainien ait son mot à dire sur le sujet. S'il ne participe pas à la rencontre en Alaska, Volodymyr Zelensky devra être très vite associé aux discussions. Et sur ce point aussi, il semble avoir été entendu par Donald Trump.
Si la première réunion se déroule bien, nous en aurons rapidement une deuxième. Je souhaiterais la faire presque immédiatement entre le président Poutine et le président Zelensky et moi-même s'il souhaite ma présence.
Le président américain a également confirmé sa volonté d'arriver à conclure un cessez-le-feu. L'actualité en métropole, toujours marquée par les fortes chaleurs. Au-delà des conséquences sanitaires qu'elles peuvent engendrer, elles ont aussi un coût. Une journée avec des températures supérieures à 32 degrés équivaut à une demi-journée de grève, a expliqué l'Institut Alliance qui a réalisé une étude. Une demi-journée de grève, les fortes températures auraient coûté entre juin et juillet 0,3% du PIB, ce qui annule en quelque sorte les prévisions de croissance pour le troisième trimestre annoncées par la Banque de France. Et puis cette polémique dans le Val d'Oise, le maire de Noisy-le-Sec a porté plainte après l'annulation de la projection du film Barbie. Plusieurs agents municipaux ont été menacés par un groupe de jeunes opposés à la projection d'un film qui prône selon eux l'homosexualité et qui porte atteinte à l'intégrité de la femme. L'affaire fait grand bruit. Laura Legault pour Europe 1.
C'était une séance de cinéma prévue pour les enfants du quartier, avec à l'affiche Barbie. Le film met en scène la poupée rose mondialement connue. Jocelyne, 69 ans, l'a vue à sa sortie au cinéma en 2023. Elle reste incrédule face aux pressions des jeunes du quartier pour empêcher sa diffusion.
Le film Barbie, ça m'évoque la poupée. Pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'expression.
Un peu plus loin, Anne, 60 ans, est du même avis, d'autant que le film avait été choisi par les habitants eux-mêmes pour être diffusé cet été.
Puis, sidéré par autant de bêtises, d'intolérance, si c'était en plein air, c'est que les familles devaient pouvoir aller le voir et je trouve dommage de les priver. Un petit groupe, encore une fois, décide pour la majorité et je trouve ça inadmissible.
La retraitée ne comprend pas pourquoi la mairie cède aux pressions d'une minorité.
J'ai l'impression que la municipalité est de plus en plus frileuse. Je pense qu'un peu de fermeté n'aurait pas fait de mal.
De son côté, le maire Olivier Sarabérous l'affirme.
Je n'ai pas cédé au fondamentalisme, j'ai cédé à une pression, mais pour la sécurité à la fois des agents et des familles.
L'élu portera plainte dès demain pour menace contre les agents municipaux. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a également annoncé une plainte pour entrave à l'exercice de la liberté de diffusion de la création artistique.
Nous avons parlé tout à l'heure de la fête de l'Assomption en Nouvelle-Calédonie qui donnera lieu au traditionnel pèlerinage de la Conception. S'il y a un lieu en métropole où l'Assomption sera fêtée, c'est Lourdes, la cité mariale. Le sanctuaire construit près de la grotte où la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous reçoit de très nombreux pèlerins et il a même retrouvé sa fréquentation d'avant Covid. Le reportage de Margot Bongrand.
Environ 80 000 personnes visitent le site chaque jour cette semaine. Des chiffres en augmentation. Il y a évidemment les habitués comme Thérèse qui vient tous les ans depuis Strasbourg.
On se sent bien, c'est pour se ressourcer. C'est vraiment merveilleux. On voit beaucoup de choses, on reçoit plein de grâce. On est là pour la messe, pour les actions de grâce, les pardons. C'est vraiment le pèlerinage. On est vraiment... Oh là là, je peux pas vous dire, c'est vraiment beau.
Mais aussi des personnes qui viennent pour la première fois. C'est le cas d'Alida, descendue d'Île-de-France.
Cette année, j'ai eu la grâce de venir à Lourdes. Le premier jour, lorsque nous sommes arrivés, j'ai eu des frissons. Et le lieu est tellement sain. On sent la présence de Dieu. Donc, on se sent bien. Ce n'est que du bonheur.
Les pèlerins sont aussi de plus en plus internationaux. On croise dans le sanctuaire des Italiens, des Néerlandais, des Ivoiriens, par exemple, mais aussi beaucoup de Brésiliens comme Ivo et sa mère.
Ma grand-mère est venue il y a 20 ans. Ma mère n'était pas venue, c'est sa première fois. Déjà, elle a fait le voyage 11 000 km. Hier, on a fait la procession. C'était très émouvant parce qu'elle s'appelle Lourdes. Donc, c'était un lieu plein d'émotions pour nous, quoi.
Environ 20 000 personnes sont attendues pour la grande messe de l'Assomption vendredi. Lourdes, Margot Bongrand, Europe 1.
Il est 11h et bientôt 56 minutes. Une dernière pause dans ce journal avant de voir l'actualité sportive. Et ensuite, on se retrouve pour les jeudis de l'économie radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
On la croyait disparue à tout jamais, mais cette année, elle est de retour.
Mais attends, mais tu parles de qui, là?
De la... la foire de Bourail. Eh oui, elle est de retour après le Royal Caledonia Show. À Nouméa, la foire de Bourail, la vraie, la seule et l'unique, celle qui rassemble toute la Calédonie, la préférée des Calédoniens, celle qui se déroule à Téné.
Oui, non, mais ça va, on a compris, là.
C'est les 15, 16 et 17 août 2025 pour la 47e édition. Plein de changements et de surprises vous attendent. Alors rendez-vous à Bourail les 15, 16 et 17 août.
Tu as moins de 30 ans? Tu veux trouver un emploi ou lancer ton projet en Nouvelle-Calédonie? Rejoins le programme de parrainage de talents calédoniens. Un chef d'entreprise t'accompagne, tu bénéficies d'un réseau, d'ateliers et d'un suivi personnalisé pour réussir ton parcours. Inscris-toi vite sur la page Facebook de Talents Calédoniens en remplissant le formulaire. Candidature ouverte jusqu'au 24 août. Inscris-toi vite et fais décoller ton avenir. Talents Calédoniens, un parrain pour demain.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Le sport avec du football et le Paris Saint-Germain qui n'a pas manqué ce matin son retour à la compétition. Les Parisiens Lionel Sabot disputaient la finale de la Super Coupe d'Europe.
Jadis, quand on parlait football, il était de tradition de dire qu'il s'agit d'un sport qui se joue à 11 contre 11 et qu'à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Va falloir penser à remplacer Allemagne par PSG. Nous avions quitté le Paris Saint-Germain un peu chafouin. Après une défaite en finale de la Coupe du Monde des clubs, c'était face à Chelsea. Nous avons retrouvé les Parisiens victorieux ce matin face à un autre club anglais. En finale de la Super Coupe d'Europe, les hommes de Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des Champions, rencontrait Tottenham, le vainqueur de la Ligue Europa. Paris victorieux, vous disais-je, mais que cette rencontre aura été difficile pour les Parisiens en manque de compétition. Paris qui encaisse un premier but juste avant la mi-temps, qui a bien cru que la rencontre était pliée après un deuxième but des Spurs en début de seconde période. Oui, mais voilà, Paris aura une nouvelle fois su renverser la vapeur. Lié à la 85e, Gonzalo Ramos, dans le temps additionnel, ont permis aux supporters parisiens d'y croire à nouveau. C'est donc lors de la séance des tirs au but que Paris a remporté le premier titre de la saison, 4 tirs au but à 3. Réaction de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain.
On n'a pas trop de préparation, mais ça se voit que le foot, c'est pas que le physique, c'est aussi le ballon, c'est le mental, être bien placé, être bien tactique. Tottenham, ils ont fait 2-0, ils ont été beaucoup derrière, ils nous ont invités pour venir. Et là, c'est dangereux quand tu invites le Paris Saint-Germain pour venir comme ça. Le coach, il a fait des changements qui nous a donné un petit peu plus qu'on avait besoin. Gonzalo est très bien rentré, on avait besoin d'un numéro 9 là-bas pour mettre ce ballon. Okay. Et voilà, tout le monde qui a rentré. Après le penalty, on a fait confiance à Luca, on le sait qu'on le connaît. Il vient d'arriver, c'était un moment pour lui de s'assurer. Je suis très heureux, il a réussi. Et après nos tireurs, ils ont très bien fait le boulot.
Et avec cette victoire, le Paris Saint-Germain remporte son 5e trophée de la saison, puisque cette finale marquait la fin de la saison 2024-2025, mais aussi en quelque sorte l'ouverture de la saison 2025-2026. Paris qui aura remporté le championnat de France, la Coupe de France, le trophée des champions, la Ligue des champions, et donc la Super Coupe d'Europe. Paris qui aura été aussi, on en parlait il y a un instant, finaliste malheureux de la Coupe du Monde des clubs. Ça fait quand même un sacré palmarès pour une seule saison. Paris qui retrouvera les pelouses du championnat de France de Ligue 1. Lundi matin pour nous, en clôture de la première journée, le PSG se déplacera à Nantes.
Allez, quelques mots de tennis. Maintenant, avec la suite des tournois hommes et dames de Cincinnati. C'est évidemment aux États-Unis.
Et commençons par les dames avec Magda Linette, la polonaise, qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant l'américaine Jessica Pegula en 3-7, 7-6, 3-6 et 6-3. La polonaise Iga Świątek, elle, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant la roumaine Cristea en 2-7, 6-3, 6-3. Chez les messieurs, ça passe pour Alexander Zverev, tête de série numéro 3, l'allemand, qui s'est imposé en 2-7 sur l'américain Nakashima, score final 6-4, 6-4. Et puis, qualification également du danois Holger Rune, tête de série numéro 7, qui a profité de l'abandon de l'américain français Tiafoe pour se qualifier pour les quarts de finale. Rune qui s'impose finalement 6-4 et 3-1.
Et puis on termine avec un mot de football en Calédonie. Le CA Saint-Louis qui s'est qualifié hier pour les quarts de finale. finale de la Coupe de Calédonie. Au stade du Madélé, le CA Saint-Louis s'est imposé 4-0 sur le AS Ouatchaélé. En quart de finale, Saint-Louis rencontrera la AS Cougné. Et puis un mot de football féminin, les joueuses de la sélection calédonienne U16 qui ont pris la 3e place du tournoi de qualification à la Coupe du Monde. Dans le match pour la 3e place, les Calédoniennes se sont imposées 9-0 sur les îles Salomon.